Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom de Mephibosheth. Donc, c'est l'histoire de ce garçon que je vais vous raconter. Le roi David est au sommet de sa gloire. Il a remporté beaucoup de victoires militaires. Et dans 2 Samuel 8, verset 15, il nous dit « David régna sur tout Israël. Il administrait le droit et rendait la justice pour tout son peuple. » Donc, nous allons lire dans 2 Samuel, au chapitre 9, et du verset 1, au verset 11. Donc, David est au sommet de sa gloire. David demanda : reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Ziba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda « Es-tu bien Ziba ?» Il répondit « C'est moi ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. » Ziba lui répondit « Il existe encore un fils de Jonathan qui avait deux jambes estropiées. Où vit-il ? Demanda le roi. Ziba lui répondit, dans la maison de Makir, le fils d'Amiel, au Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar, dans la maison de Makir. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela « Mephibosheth, c'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit « Que donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui ? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort, qu'un clébard. » Et le roi appela Ziba, le domestique de Saül, et lui dit « Tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi et tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récoltez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Mephibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table, il prendra tous les jours ses repas. » Donc, Mephibosheth était le fils de Jonathan, l'ami de David, et donc le petit-fils de Saül, comme nous venons de le dire. Et vous savez qu'entre David et Saül, ça n'allait pas du tout bien et que Saül voulait faire mourir David. Mais Jonathan protégeait David. Il avait averti plusieurs fois des projets meurtriers de Saül. Nous lisons toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques. Les Philistins attaquaient Israël. Beaucoup de soldats furent tués sur le mont Gilboa. Saül et ses trois fils moururent à Gilboa, et en particulier Jonathan. Mephibosheth avait 5 ans lorsque c'est arrivé, lorsque son père et son grand-père moururent. Terrorisé à l'annonce de cette nouvelle, sa nourrice le saisit, elle s'enfuit avec lui, mais elle le laisse tomber. Et il fut estropié des deux pieds. Ceci nous est dit dans le livre de Samuel. Donc, Mephibosheth est estropié. Il va séjourner à Lodébar, à l'est du Jourdain, et c'est un pays aride, désertique, un lieu de mort. Donc, David devint roi à la mort de Saül. Il consolide le pays, il organise le culte, etc. Et David est au sommet de sa gloire. Et il demande, reste-t-il un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Comme nous l'avons vu, David fait venir Mephibosheth à la cour. Il lui rend ses domaines, il lui assigne une place à sa table. Et on nous dit que Mephibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils des rois. Il est même surpris puisqu'il dit au roi, « Pourquoi tu t'intéresses à moi? Je suis comme un chien crevé. » Eh bien, il n'avait pas choisi ce qui lui était arrivé. Mais grâce à la bonté de David, sa vie est restaurée. Il reçoit l'héritage qu'il aurait dû avoir et il mange à la table du roi. Quel privilège! Eh bien, cette histoire qui s'est passée il y a bien longtemps, il y a plus de 3000 ans, elle est une illustration de la grâce divine que Dieu nous offre en Jésus-Christ. La grâce, elle est une faveur offerte à celui qui est sans secours, celui qui est mort spirituellement. Et nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 2, chapitre 2, le verset 1. Donc, la grâce, je vous ai dit, elle est offerte à celui qui est sans secours, à celui qui est mort spirituellement. Donc, Éphésiens 2, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par des actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. Et puis nous lisons un peu plus loin au verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Donc, la grâce est offerte à celui qui est mort. La grâce, elle accorde une position privilégiée à celui qui la reçoit. Il nous est dit de Mephibosheth qu'il mangea à la table royale comme s'il était un des fils du roi. Et dans Éphésiens 1, nous lisons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Et puis nous lisons les versets 5 et 6. Il nous a destinés à l'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'il avait fixé, qui met en œuvre toutes choses. Donc, la grâce accorde une position privilégiée, elle fait des cadeaux. Et aussi, la grâce, elle soutient et garde celui qui fait partie du peuple de Dieu, de son troupeau. Dans l'évangile de Jean, nous lisons au chapitre 10, les questions du troupeau, au verset 27. Je leur donne la parole. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne pourra les arracher de ma main, ou nul ne les ravira de ma main. Donc la grâce soutient et garde celui qui fait partie du troupeau de Dieu. La grâce divine nous invite à la table du roi des rois. Alors, je voudrais vous parler de la table. Dans une maison, je ne sais pas dans votre maison, mais la table où l'on prend le repas est un meuble important. C'est un lieu de partage, un lieu où on reprend des forces après une longue journée de travail. C'est autour de la table qu'on invite la famille, les amis. Et chez moi, autour de la table, c'est un lieu où on fait des études bibliques. Dans l'Évangile, on rencontre notre Seigneur Jésus-Christ à table. Et quand il était à table, il en profitait pour donner son enseignement. Et je pense que vous savez tous que le premier miracle de Jésus s'est passé aux noces de Cana en Galilée. Dans la Bible, il y est souvent question de table. Il y a des histoires de table. Alors, la première, c'est une table, la table des compromis. Vous savez que Jésus est entré à Jérusalem le jour des Rameaux, et donc, après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus entra dans la cour du temple. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, alors Matthieu 21, alors nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 21, les versets 12 et 13. Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, les tables, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Le temple devait être un lieu de sacrifice, un lieu de pureté, et non un lieu de tricheurs, de brigands. Jésus renverse les tables et les sièges des marchands. Il ne veut pas de tricherie, de compromis. C'est pour ça que j'ai appelé ça la table du compromis. Et ce qu'il fait là, c'est un acte prophétique qui symbolisait la prochaine venue de Jésus qui reviendra comme juge. Alors, qu'est-ce que ça fait ces tables par rapport à nous? Dans notre vie de chrétien, de chrétienne, quels sont les compromis que nous faisons et quels sont les compromis que notre Seigneur veut renverser? Parfois, c'est le compromis de l'avarice, ou bien nous sommes en colère, ou bien nous refusons de pardonner à celui qui nous a offensés. L'orgueil, le manque d'amour, combien de compromis dans notre vie chrétienne? Eh bien, par nos forces, nous ne pouvons souvent pas les renverser, mais demandons à notre Dieu de venir purifier notre vie chaque jour, afin que Dieu soit glorifié. Demandons-lui pardon afin d'avoir une vraie communion avec lui par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, il y a d'autres tables dans la Bible. Il y a la table de l'alliance passive. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, cette histoire se passe et est racontée dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. Alors, je vous redonne le contexte. Isaac est marié depuis quelque temps. Abraham est mort. Et, bien sûr, dans ces pays, il n'y a pas toujours de l'eau. Il y a eu une famine dans le pays. Alors Isaac ne va pas descendre en Égypte, mais il se rend à Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Mais quand il se rend là-bas, l'Éternel bénissait Isaac et il devint très puissant. Il avait bien sûr des serviteurs, il avait beaucoup de troupeaux et les Philistins devenaient jaloux de lui. Quand il creusait un puits, il trouvait de l'eau. Puis les bergers de Guérar venaient et ils se disputaient à cause du puits. Et sans arrêt, il y avait des querelles entre les bergers d'Isaac et les bergers de ce pays de Guérar. Mais Dieu bénissait Israël. Alors le roi Abimélec s'est posé des questions. Il dit, bon, il arrive, mais finalement, tout lui réussit. Et il va trouver Isaac et lui dit, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi. » Que va répondre Isaac? « On voudrait faire alliance avec toi. » Eh bien, Isaac fait un festin. Donc, on est là autour d'une table. Et c'est pour avoir une alliance passive, pour qu'il n'y ait plus de différence entre les bergers et un autre. Isaac leur fit préparer un grand repas et ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Et ils se quittèrent en bon terme, plus de querelles, mais une entente. Et nous, dans notre vie de chrétiens, quand est-ce que nous devons avoir une alliance passive comme ça? Rechercher la paix. Cette histoire, quand même, nous montre l'importance de rechercher la paix et non la dispute. La recherche de la paix, quoi qu'il en coûte, est nécessaire, importante dans notre vie de tous les jours. C'est vrai qu'on aime bien être en paix. Alors, la paix, nous pouvons avoir recherché la paix entre époux, entre parents et enfants, dans la famille, proche ou lointaine. Chercher la paix avec notre voisinage, au travail et surtout dans l'Église. Et que nous enseigne l'histoire d'Isaac, c'est qu'Isaac, il a dressé une table. Eh bien, soyons les premiers à dresser la table comme Isaac. Si tu t'entends pas dans le bureau. Eh bien, le matin, amène des croissants pour la pause de café. Ou bien, donne un coup de téléphone, etc. Savoir être en paix les uns avec les autres. Et n'attendons pas que l'autre fasse le premier pas. Que le Seigneur nous aide à faire le premier pas. Et la bénédiction de Dieu ne nous abandonnera pas. Je vais vous parler d'une troisième table. Et cette troisième table, on la trouve dans le psaume 23. C'est la table de la provision. Dans le psaume 23, que vous connaissez certainement tous par cœur, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Et un peu plus loin, il est dit, au verset 5, « Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, tu fais déborder ma coupe. » Donc, Dieu dresse une table, le berger, face à nos ennemis, face à nos adversaires. Dieu dresse une table entre moi et mes adversaires. Donc, je compte sur Dieu. Il fait déborder ma coupe. Et nous avons tous et toutes traversé des tragédies. Nous avons tous et toutes parfois été au milieu de tourments. Mais notre Dieu te donne des forces pour garder la tête haute, pour rester confiant, pour rester serein. Quand nous avons des épreuves, ce psaume, des difficultés de toutes sortes. Relisons le psaume et vous savez combien de réconfort il a pu apporter à ceux qui nous entourent. Et approprions-nous les promesses de Dieu quand il dit « Tu dresses une table aux yeux de mes ennemis ». Approprions-nous ces promesses et disons « Toute ma vie, à la fin du psaume, toute ma vie, ta bonté, ton amour me poursuivront. » Gloire à Dieu. Enfin, une dernière table. Et ici, ça n'est le symbole. C'est la table de la rédemption. Alors, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, au verset 26. À partir du verset 20. C'est l'institution de la Pâque. Jésus, le soir, Jésus se mit à table avec les douze. Et pendant qu'il mangeait, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Et je passe au verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Pourquoi je dis la table de la rédemption? Parce que Jésus annonce à cette table que son sang va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés, donc afin qu'ils soient déclarés justes. Et son corps va être brisé. Jésus nous appelle encore aujourd'hui à sa table pour obtenir le pardon de Dieu, car son corps a été brisé pour nous et son sang a été versé pour nous. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et le verset 20, à la fin de sa lettre à l'église de Laodicée, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Méphibosheth a été invité à manger à la table du roi David. Mais nous, nous sommes invités à manger à la table du roi des rois, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne refusons pas son appel. Amen. Amen.